La cérémonie n'a quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Charles III sera couronné le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster.
C'est là que depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre.
Le nouveau souverain entend donner un petit coup de jeune à ce sacre ultra codifié.
L'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, symbole de sa juridiction temporelle dont elle ne devra user que pour défendre les opprimés selon la formule sacramentelle.
Comment, malgré ces symboles et ce protocole très ancien, le roi peut-il moderniser ce couronnement ? Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People, et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. On est chez Ninas Vendôme à Paris, en compagnie de Philippe Turl. On le sait maintenant, puisque c'est déjà le troisième épisode de ce podcast, mais vous êtes donc toujours journaliste à France 24 et spécialiste de la monarchie britannique. Bonjour Philippe.
Bonjour Magali.
Comment se déroule un couronnement de souverain britannique ? Quelles sont les principales étapes ? Comment ça se passe ?
Alors, ça se passe à l'abbaye de Westminster.
Devant l'abbaye de Westminster, où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, d'autres foules aussi denses, aussi haletantes. C'est là, dans ce sanctuaire, que se résume l'histoire d'Angleterre. C'est là que, depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre.
Toujours au même endroit, qui est dans le centre de Londres, pas loin du Parlement britannique, juste face à la Tamise. Et c'est une cérémonie qui est presque inchangée depuis 1000 ans, depuis Guillaume le Conquérant. Tous les rois y sont passés, mais c'est une cérémonie qui n'indique pas le début de la règne d'un monarque en Grande-Bretagne. C'est purement symbolique, mais important pour la consécration du roi, ou comme Elisabeth II, d'une reine. Ce qui se passe, c'est que le roi va arriver, il va être présenté au peuple pour être acclamé. Ensuite, il va prêter serment pour garantir le maintien de la loi en Grande-Bretagne et pour protéger l'Église protestante en Grande-Bretagne. Après cela, va suivre la cérémonie où il va recevoir l'huile sacrée. C'est une partie de la cérémonie qui reste extrêmement important, et tellement important qu'en 1953, la BBC et la famille royale n'avaient pas le droit de transmettre ces images. Donc la question reste aujourd'hui, est-ce qu'on verra ou pas cette
onction du roi Charles.
Du roi Charles. Donc pour le moment, je pense que oui, mais ce n'est pas encore acquis. Ensuite, le roi va être couronné avec une cérémonie où on va placer la couronne sur sa tête. Une couronne qui date de 1661.
Et, c'est la couronne de Saint-Édouard,
c'est ça le couronnement Saint-Édouard. Et ensuite, va suivre le couronnement de la reine Camilla, la reine consort Camilla, avec la couronne de la reine Mary, qui date de 1912 et qui remplacera la couronne où il y a ce fameux diamant, le Koh-i-Noor, qui est assez polémique en Grande-Bretagne. Et donc, c'est pour la première fois qu'on réutilise une couronne pour le couronnement de la reine. Et après cela, il y aura de nouveau des acclamations de la foule des Britanniques, la procession à travers Londres. Et depuis le XXe siècle, uniquement, il y a une apparition sur le balcon de Buckingham Palace des membres actifs de la famille royale qui entourent le nouveau roi et la nouvelle reine.
Alors, il y a beaucoup d'accessoires qui accompagnent ce couronnement. Il y a le sceptre, donc il y a évidemment la couronne, vous en avez parlé. Il y a l'orbe qui est en or également. Quelle est la signification de ces accessoires ? Ça, une symbolique religieuse également ?
C'est des symboles et de la monarchie et de la religion et aussi de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de ces articles qui ne sont pas des articles d'origine, qui étaient pillés, fondus, reconstitués, sauf une cuillère qui date de l'époque Édouard III, qui est le vrai article, qui est presque millénaire maintenant, qui va être utilisé aussi lors de ce couronnement. Tous ces articles sont placés en temps normal dans le tour de Londres, sous une garde policière à longueur de temps, avec toutes les couronnes. Ils sont visible par le public, et ils sortent uniquement pour les couronnements et pour les grands événements d'État. Donc, nous allons voir une cérémonie, donc le 6 mai, qui reste pratiquement inchangée depuis 1000 ans, qui est une image de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, mais d'autrefois, et donc qui est assez important, très important même, pour la monarchie et pour la transmission de la monarchie entre la reine Elisabeth II et maintenant le roi Charles III.
Vous parlez justement de la Grande-Bretagne, enfin, du Royaume-Uni d'aujourd'hui et d'autrefois. Comment justement insuffler un petit peu de modernité dans ce sacre médiéval ?
Alors, il y a deux problèmes doit faire face le roi Charles Ier, c'est qu'il a beaucoup souffert ces dernières années d'une impopularité ou d'une manque d'opinion positive dans les sondages. Et pour lui, maintenant roi, il faut qu'il gagne le soutien du peuple. Donc, tout le monde a des problèmes pour joindre les deux bouts. Tout le monde n'est pas nécessairement royaliste. Et donc, il est obligé de faire en sorte de maintenir l'image de la Grande-Bretagne, le faste d'autrefois, cette cérémonie millénaire, mais s'adapter à l'année 2023. Donc, on ne peut pas continuer à faire toujours la même chose. On ne peut pas faire une cérémonie qui dure des heures et des heures, qui coûte très cher. Donc, il est obligé de se moderniser, mais en même temps, deuxième défi, garder tout le symbole de cette cérémonie sans faire en sorte qu'on le critique après pour dire ben, « vous n'avez plus fait ceci, vous n'avez plus fait cela ». Et donc, c'est le grand défi du roi. Il est très au courant des envies du peuple, des besoins du peuple et l'opinion du peuple vis-à-vis de lui-même. Et donc, il a fait comprendre depuis le début, oui, on fait un couronnement, même s'il y a des gens qui disent « mais ce n'est pas nécessaire », mais on fait un couronnement modernisé, mais toujours dans la tradition d'autrefois. Donc, c'est un grand défi pour lui. Je pense qu'il va y arriver. Par exemple, ce qu'on va voir le 6 mai va être moins long, moins fastidieux, avec moins de personnes présentes. Tout ça pour dire au peuple qui regarde, oui, je vous ai entendu, mais pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire de la Grande-Bretagne, qui sont royalistes, il faut que je fasse quelque chose, mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde parce que je suis quand même le roi de tout le monde. Je ne peux pas aller dans un sens sans aller un peu aussi dans l'autre sens. C'est un vrai défi pour lui, mais je pense qu'il a réussi à trouver une issue à tout cela qui va faire plaisir à tout le monde, où on va voir les grandes lignes d'un couronnement, mais peut-être pas avec toutes les parties extrêmement ajoutées à la fin pour que ça soit beaucoup plus long et beaucoup plus cher.
La modernité se niche parfois dans des détails, enfin des détails. J'ai lu que l'huile qui va servir à l'onction, par exemple, serait garantie sans cruauté animale. C'est quand même une huile dont la recette est, remonte à la Bible.
Il est très écologiste, le roi Charles. Il aime bien écouter les besoins du peuple et les envies du peuple et les demandes du peuple. Et la demande aujourd'hui, c'est qu'il faut protéger les animaux. Donc, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on faisait autrefois. Donc, concernant cette huile, autrefois, on utilisait les glands de certains animaux, dans les baleines et autres, pour constituer cette huile. Il a fait comprendre que maintenant, ce ne sera plus le cas. Il n'y a aucune huile animale qui sera utilisée. Cette huile qui vient du Moyen-Orient, de Jérusalem, sera uniquement faite par des produits naturels, dans l'huile d'olive aussi, avec un nombre d'arômes et de produits dedans qui rendent l'huile sacro-sainte, mais ne sera en aucun cas une huile qui sera constituée avec un quelconque produit animal.
On sait que les funérailles de la reine étaient planifiées depuis des décennies, que la reine avait prévu chaque détail. Est-ce que c'est la même chose avec le couronnement ? Est-ce que Charles, depuis des décennies, se prépare à l'opération Golden Orb, comme on l'appelle ?
Vous pensez bien que depuis 1953, il y a toujours 70 ans, Charles a eu bien le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire le jour où il allait être couronné. Donc, ce n'est pas une surprise pour lui, ce n'est pas quelque chose qui lui tombait sur la tête depuis septembre dernier et la disparition de sa mère. Il a eu maintes fois l'occasion de réfléchir à ce qu'il allait faire, de changer ses plans, peut-être d'ajouter quelque chose et puis de le changer de nouveau. Tout ça est fait à la seconde, à la minute près. On peut régler sa montre depuis le début jusqu'à la fin de cette cérémonie. En 1953, la cérémonie a eu lieu au mois de juin, alors que le roi est décédé en février 1952. Donc ça fait presque un an et demi plus tard. Ce qui est étonnant cette fois-ci, c'est que la cérémonie du couronnement ait lieu aussi rapidement après le décès de la reine Elisabeth II, qui était en septembre 2022. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'organisation d'une telle cérémonie. À l'époque, en 1953, il fallait programmer et la cérémonie et les vêtements et la procession et comment aller se comporter sur place, où est-ce qu'on allait se mettre, c'est des mois et des mois de travail. Ce qui a surpris beaucoup de monde, y compris moi-même, c'est la rapidité avec laquelle on fait cette cérémonie. Pour une autre raison aussi, c'est que c'est une cérémonie qui est faite pour célébrer avec joie l'arrivée d'un nouveau monarque. On ne peut pas le faire trop rapidement après le décès du monarque précédent, parce qu'on est dans une période de deuil, on est dans une période de tristesse. Et donc, comme en 1952, on avait un an et demi pour tourner la page du roi George VI. Cette fois-ci, on n'a eu que quelques mois pour tourner la page de l'époque Élisabeth II, qui était le plus long dans l'histoire de la monarchie britannique. Donc, je suis un peu étonné de la rapidité de la préparation de ces cérémonies, mais vous pouvez être certain que tout est programmé du début jusqu'à la fin, à la seconde près.
Qui est-ce qui s'occupe de l'organisation de ce couronnement ?
Il y a toute une équipe, hein, ce n'est pas une seule personne qui s'en occupe. Et souvent, on a des personnes à part insolite qui ont leur mot à dire. Par exemple, certains membres de la famille royale. Je pense que d'abord, c'est Charles qui est commandant-chef de ce qu'il veut faire dans cette cérémonie. C'est lui qui décide. Ensuite, vous avez aussi le Premier ministre qui a son mot à dire sur la cérémonie, le déroulement, comment on peut adapter une telle cérémonie avec les besoins de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, la situation politique du pays. Lui aussi, il peut, par exemple, interdire par des lois au Parlement que le roi fasse certaines choses ou qu'il ne les fasse pas. Donc, vous avez aussi une équipe qui organise la mise en scène, les différentes personnes vont être habillées et à quel moment on fait quelque chose dans l'abbaye de Westminster. Donc, c'est vraiment une énorme programmation. Par exemple, quand on pense à la cérémonie de 1953, il y a eu beaucoup de disputes. Je ne sais pas si c'est la même chose cette fois-ci, mais il y a eu beaucoup de disputes entre le duc d'Edimbourg, donc le mari de la reine, qui voulait tout moderniser, la reine-mère, qui était toujours en vie, qui était relativement jeune, elle avait 52 ans, qui voulait une cérémonie comme celle qu'elle avait eue en 1937. Et donc, c'est une femme non recevoir, c'est elle qui a eu gain de cause. Et Winston Churchill aussi avait son mot à dire en 1953 sur le « on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela ». Et concernant la diffusion de cette cérémonie en 1953, la BBC n'avait pas le droit d'aller dans l'abbaye de Westminster. C'était une fin de nous recevoir. Disons, c'est une cérémonie millénaire. C'est privé. La BBC ne peut pas rentrer. C'est sacro-saint. On ne peut pas transmettre sur une vulgaire chaîne de télévision une telle cérémonie qui est symbolique de la monarchie britannique. Et c'est seulement après que la BBC avait fait un sondage auprès de ses téléspectateurs qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, qui avaient tous réclamé la diffusion des images du couronnement, que la reine-mère a fini par céder avec Winston Churchill et les caméras ont réussi à rentrer à Westminster Abbey.
Si bien qu'en 1953, 8 pays purent assister comme s'ils y étaient, rappelez-vous le slogan publicitaire de ce moment-là, au couronnement de la reine Elisabeth. Cérémonie grandiose dont les images font elles aussi partie de l'histoire.
Cette fois-ci, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'on verra sur place ? Simplement, on ne sait pas.
Et alors, comment le roi Charles peut manifester dans ce couronnement ? Quelle marge de manœuvre il a pour manifester son engagement envers les multiples confessions qu'il y a aujourd'hui au Royaume-Uni ? Parce qu'il est certes chef de l'Église anglicane, mais il y a de nombreuses religions au sein du Royaume-Uni.
C'est tout un défi aussi pour le roi Charles, parce que le couronnement doit être une cérémonie menée par l'archevêque de Canterbury, qui est à la tête de l'Église anglicane. C'est lui qui est le patron, en quelque sorte, de cette cérémonie. C'est lui qui officie pendant toute la partie qui doit dire à Charles qu'il est roi, etc. Donc, c'est une cérémonie, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est extrêmement ancienne, qui est millénaire. Comment intégrer là-dedans d'autres religions? Vous savez que Charles, il est très ouvert à d'autres religions et même d'ailleurs autrefois, quand il était plus jeune, il voulait intégrer d'autres religions pour faire pas seulement l'Église anglicaine, mais d'autres églises en Grande-Bretagne qui jouent un rôle aussi important. Je pense que dans sa tête, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour lui, de faire en sorte que même si ça c'est une cérémonie complètement anglicane pour l'Église d'Angleterre, que les autres religions ne soient pas oubliées derrière, parce que maintenant, la société britannique n'est plus du tout la même que c'était en 1952-1953. Il ne veut pas offusquer non plus ces sujets qui ne sont pas de confession anglicane, mais juifs ou musulmanes, etc. Donc, il faut faire en sorte que ces gens-là soient... ont le sentiment d'être aussi intégrés dans la société et pas exclus par une cérémonie qui, à leurs yeux, ne les intègre pas. Donc c'est tout un défi pour le roi, et je pense que aussi pour lui, c'est quelque chose qui lui travaille un peu dans la tête en ce moment.
C'est un roi qui, bon, on l'a déjà dit lors d'un précédent épisode, qui est d'une popularité... relative, qui est relativement appréciée, mais pas plus que ça non plus. Il y a des manifestants républicains qui ont l'intention de se poster sur le trajet de la procession. Est-ce que ça risque de perturber l'événement ? Est-ce que c'est un sentiment qui est en train de se...
Personnellement, je ne le pense pas, parce qu'il y a énormément de policiers et de gardes de sécurité partout postés à Londres. Et ce n'est pas quelque chose de tout neuf non plus. Les anti-monarchistes, les pro-républicains sont connus en Grande-Bretagne. C'est à peu près 25% ou un peu moins de la population qui aimerait bien que la Grande-Bretagne devienne une république. Mais là, c'est la journée où il faut la sans faute. Donc, je pense que les forces de l'ordre seront un petit peu sur les dents parce que, ils ont le problème de la foule qui peut essayer de traverser les barrières juste pour être plus près du roi ou d'avoir le selfie ou la photo à côté de la carrosse qui passe. Vous avez le problème d'éventuels attentats terroristes. Et vous avez aussi le problème des manifestants qui viennent juste là pour perturber le déroulement de la journée. Et vous avez le problème des républicains aussi. Donc je pense que oui, il y a certainement des gens qui aimeraient bien protester. Oui, il y aura évidemment des groupes de personnes qui vont tenter de le faire. Mais à mon avis, on ne verra rien. On ne verra rien dans les images parce que ça va être extrêmement bien contrôlé. Sauf incident, bien évidemment, improviste, mais je pense que tout ça, c'était bien pris en compte par les forces de sécurité. Il y a déjà bien longtemps, ils sont bien préparés pour ça.
Merci beaucoup, Philippe Turl, d'avoir répondu à mes questions pour le podcast Royal. Merci à vous de l'avoir écouté. La semaine prochaine, nous parlerons des invités. Et pour ne pas manquer les épisodes suivants, n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine.